France Culture. Marraine Selle, bonjour.
Bonjour Caroline.
C'est le troisième temps de nos rencontres. Bah justement, on va parler de rencontres. On va parler des amours, des amitiés, des hommes et des femmes de votre vie, ceux et celles sur lesquels vous avez écrit. Parfois, la réalité et la fiction s'entremêlent, on le sait bien. Ceux qui vous ont inspiré. Et puis, dans l'épisode suivant, le quatrième, on parlera de ceux que vous avez édités. Donc, on va d'abord rester sur sur lesquels vous avez écrit. Et bien, à propos d'écriture, à propos de livres, je me rends compte qu'on n'a pas encore parlé de littérature. Vraiment. Quand est apparue la littérature dans votre vie?
À la naissance.
À la naissance.
À l'adolescence, hein. À partir du moment où... Enfin, sur la table de chevet de mes parents, il y avait des recueils de poésie, comme quasiment dans tous les foyers allemands. Les Allemands lisent la poésie. Donc, j'ai très tôt feuilleté les livres qui étaient sur la table de chevet de mon père ou de ma mère. Et au fur et à mesure de mes lectures, je crois que j'ai imaginé des amours. C'est-à-dire, je pense que les livres qu'on lit préparent à l'amour. Et comme on lit différents livres, on a des projections différentes d'amour qui sont d'amour différents, parce qu'il y en a plusieurs, qui sont de l'ordre de l'admiration, de l'amitié, de l'inspiration. Par exemple, on lit Stendhal, on a envie de galoper, non, vers à travers l'Italie pour. On lit Kafka, on est plutôt dans l'inhibition par rapport à l'amour physique, non? On lit les liaisons dangereuses, on a une idée de ce que ça peut être. On lit Rilke, mais Rilke pour moi c'est weil ich niemals dich anhielt, halte ich dich fest, puisque je t'ai jamais tenu dans mes bras, que je te tiens éternellement, hein, fermement. Donc c'est le renoncement. Et avant que Luandra Salomé passe par là et lui enseigne des choses un peu différentes. Bon, donc je pense que vraiment les amours et peut-être aussi dans le temps, parce que vous parlez du temps, c'est à différentes étapes de la vie qu'on s'intéresse à des amours différemment construites.
C'est intéressant que vous disiez que la littérature prépare à l'amour, parce que quand on regarde vos livres à vous, Marraine Selle, on se rend compte que l'amour est très important, ne serait-ce que par les titres, mais pas seulement. En 78, vous écrivez un premier roman qui s'appelle « Mourir d'absence », sur vos origines, sur les engagements politiques ensuite, 1982, l'amour d'après. Et puis après, on a « Le dernier amant »,« La loi, c'est l'amour », l'histoire, il est question d'amour aussi beaucoup. Et puis le dernier, c'est Tout est là, où là, tout est rassemblé. Mais les deux premiers livres ont été beaucoup sur les engagements politiques. Après, c'est plutôt l'amour qui occupe vos livres.
Oui, mais les...
Quel qu'il soit, d'ailleurs. Hein.
Oui, oui.
Amour filial, amour, oui. Amour physique, amour sexuel oui. Pour l'autre sexe ou pas. Enfin, et amitié. Tout est mélangé.
Oui, c'est mélangé. Parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs amours. Hein. Il y a des amours très, très différents. Mon amie Anne Dufour-Mantel, quand on se voyait et quand on parlait ensemble, la conclusion était toujours la même. Ah oui, c'est parfois difficile, mais on est des éternelles amoureuses. Et vous dites l'engagement politique, mais je suis... tombée follement amoureuse d'André Glucksmann, et il m'a pris par la main pour me mener sur le chemin de la politique.
Oui, c'est, vous l'avez rencontré à Paris quand vous aviez 25 ans, André Glucksmann, et vous l'avez suivi à la gauche prolétarienne, on peut dire ça comme ça.
Je l'ai suivi à la gauche prolétarienne, je l'ai suivi partout. Et je l'aurais suivi partout. Voilà, donc il y a ce moment magique, non, de la rencontre. Et avec André, donc j'étais chargée par un éditeur allemand, Zurkamp, de l'interroger sur l'éventualité de faire traduire son livre en allemand.
Le livre, la cuisinière,
Discours de la guerre. Ouais. et qui se termine sur une phrase de Mallarmé, rien n'aura eu lieu que le lieu. Bon. Et en fait, c'était, on peut dire ça aussi de cet amour de, avec André. Donc, je vais chez lui. J'avais une représentation tellement différente et plus ludique, en fait, de l'engagement politique qu'en Allemagne, où les militants étaient quand même très formatés, très, très sévères, etc. André, je l'ai trouvé dans son appartement, enfin, dans un grand loft tapissé de livres, Faubourg Saint-Antoine. Il était là, dans une, enfin, à l'époque, c'était un peu la mode, c'était les moutons retournés, non? Il a une veste de...
Les peaux de bête.
Voilà, une peau de bête. Il avait une peau de bête. Et il y avait, enfin, que des objets, enfin, qu'ils ont trouvés au puce. Donc c'était bricolé. Et, mais lui, il avait une présence absolument extraordinaire. Il était très beau, vraiment très très
beau. Il n'était pas encore l'homme qu'on a connu par la suite. Hein. Il est devenu très connu en 1976 avec son livre « La cuisinière et le mangeur d'hommes ». Et puis évidemment, les maîtres penseurs, quand il devient un nouveau philosophe, avec son ami Bernard-Henri Lévy.
Voilà, pas toujours ami, mais bon.
À l'époque.
Compagnon de route, oui, on peut dire. Enfin là, il n'était pas connu du tout. Il avait publié ce livre-là qui était... très ardu à lire. D'ailleurs, j'avais pas du tout compris, enfin, j'avais compris la moitié ou un quart. Mais il était là et il m'a mis comme ça un peu à l'épreuve. Je lui ai fait comprendre que j'étais là pour éventuellement lui faire signer un contrat, mais qu'il pouvait trouver vraiment meilleur interlocuteur pour le contenu de son livre. Mais il était là et avec un jouet d'enfant, ce tube-là qui fait des bulles, non? Des bulles de savon. Donc à chaque fois que je me trouvais courageuse de m'aventurer comme ça sur le plan de l'intellectualité, il faisait des bulles de savon qu'il m'envoyait sur mon visage, etc. Et puis je le voyais lui à travers des bulles de savon aussi, parce que c'était des bulles de savon entre nous. Donc des êtres, bon, un homme, une femme, juif, allemand, bon, voilà, mais donc très différents. Mais comme j'étais dans mon esprit de réconciliation. Et aussi dans l'esprit de réparation, c'est ça ce qui m'a, la première fois j'ai ressenti ça avec André, quand il me parlait de ses parents, des camps de concentration, etc. Je me suis dit peut-être je peux réparer quelque chose par mon amour, un amour réparateur. Et ça me semblait possible parce qu'en effet il y avait une réconciliation, bon, parce que c'était une rencontre enfin un peu magique. Avec André, de réciproque, mais la puissance de la langue, non? Parce que quand il m'a dit, mais alors, les vers de Mallarmé, comment tu les traduirais? Alors j'ai commencé à traduire. Ah, tu crois? On pourrait dire peut-être que, voilà, cette chose qui s'établit, qui fait lien, quand on cherche dans la même langue, ou dans la traduction, vraiment le mot juste, le mot qui convient, c'est absolument passionnant. Il y a une séduction dans cette recherche, quasiment d'une rencontre, mais d'une fusion. Hein, parce que quand on est dans la langue, c'est une jouissance de trouver le mot juste, non? Tout le monde le sait, enfin, les gens qui écrivent savent ça. Bon. Donc André, voilà, c'était ça. Et après, son livre a été traduit, en effet, donc le contrat a été signé.
Dans les années 70, on l'évoquait à la fin de l'épisode précédent, Marenzel, au moment où vous quittez le journal Libération, vous rejoignez la fac de Vincennes, qui a été créée au tout début des années 70. Vous rejoignez l'université de Vincennes avec Hélène Sixou dans le département d'études féminines. Et Hélène Sixou, universitaire, écrivaine, a énormément compté pour vous, continue de compter pour vous, vous êtes toujours amie. Et c'est elle, dites-vous, qui vous a mis, d'une certaine façon, le pied à l'étrier. Vous écrivez « Hélène m'a appris à lire le français à sa manière. J'en ai fait mon métier d'éditrice plus tard. Elle m'a appris à écrire, lecture et écriture étant intimement liées. Je suis devenue auteure de plusieurs romans. Écriture et édition sont effectivement les deux mamelles, d'une certaine façon, de votre vie après 1978. » Hélène Sixou a énormément contribué à ce que vous deveniez écrivaine et éditrice, alors.
Oui. Il y a des amours là, je dis des amours qui toujours inspirés du romantisme allemand, qui vont vers la stérilité ou qui vont vers la mort et qui le mourir, voilà. Et Hélène, que j'ai admirée dès le départ, c'était un amour qui a donné naissance. Et elle m'a vraiment fait naître une deuxième fois en France, et pas dans la continuité de ce que j'étais déjà par l'engagement politique, etc. Mais j'ai changé de registre avec elle. Elle a été aussi très engagée parce qu'elle a elle a fait venir d'abord à Vincennes, et c'est elle qui a créé l'université de Vincennes, où elle a fait venir les plus grands penseurs, Foucault, Deleuze, enfin voilà, les grands penseurs de l'époque. Et elle enseignait quelque chose, enfin qui n'a jamais, un département qui a été créé par elle et pour elle, c'était les études féminines. Donc avec elle, on lisait des textes qu'on connaissait déjà, tout, hein, côté psychanalytique, Freud, Lacan, littérature, Kafka toujours, Stendhal, Pierre-Jean Jouve, Hoffmann-Salle, et pour elle, la libération, c'est une chambre à soi de Virginia Woolf, non? Donc elle mettait ça vraiment en pratique. Il faut avoir sa chambre à soi, et il faut que les femmes se mettent à écrire pour se trouver, pour faire ce sondage à l'intérieur. Donc voilà. Donc elle m'a vraiment donné naissance, c'est-à-dire cette, au lieu de me trouver un peu, parce que c'était quand même un peu gonflé de ma part, n'étant pas de langue française d'origine, de me lancer dans un registre où la langue est tellement importante. Donc parfois je me suis dit, mais c'est une imposture, quoi. Je peux pas être bonne éditrice ou bonne écrivain, je suis pas française, c'est pas ma langue maternelle. Et elle a complètement levé mon inhibition. Et allez-y. Et c'est ça ce qui est bien dans ce dernier livre.
Tout est là, votre dernier
Tout
livre.
Tout est là, voilà. Ce que j'ai senti, c'est comme, vous voyez, il y a un petit texte d'un écrivain autrichien qui s'appelle Herigel, et ça s'appelle L'art du tir à l'arc. Voilà. Et il explique quelque chose, et je trouve que pour l'écriture, ça vaut vraiment exactement ça. Il faut avoir l'impulsion, le talent, et après, il faut, pour que ça soit vraiment, pour que ça résonne et pour que ça vibre et pour que le tir soit juste, il faut que la cible vienne à la rencontre de la flèche. Il faut que la cible vienne à la rencontre de la flèche. Cette fois-ci, ce qui m'est arrivé avec Tout est là, c'est que j'avais plus de modèle. Alors, Hélène, pour moi, pendant ce qui concerne l'écriture et la pensée, etc., c'était vraiment c'était une admiration. C'était un modèle. Donc, forcément, parfois, on peut se calquer un peu sur le modèle. Donc, quelqu'un qu'on trouve plus doué, plus génial qu'on peut se trouver soi-même. Mais, cette fois-ci, c'était d'une incroyable facilité, parce que j'avais l'impression que, dès que mon inconscient me dictait comme ça un mot, une phrase, elle venait à ma rencontre. C'était la première fois, je crois vraiment, une façon d'écrire très très facile. Donc Hélène, elle est une grande personne, my queen, comme je dis, voilà, dans la vie, ça c'est sûr.
Il y a une queen, une reine, il y a peut-être quelqu'un qui a été un king, un roi pour vous. En tous les cas, il est très présent dans Tout est là, il a été très présent dans votre vie. C'est Georges Flouest. Georges Flouest, avec qui vous êtes resté 32 ans, marié jusqu'à sa mort. Quand vous l'avez rencontré, Marencel, vous avez 35 ans, lui en a 50. Vous venez de la gauche prolétarienne, donc de l'extrême gauche, et lui est entrepreneur, de droite, conservateur. Est-ce que avec lui, vous avez changé de monde, ou est-ce que c'est le monde qui a changé autour de vous au début des années 80?
En tout cas, c'était, pour rester un peu dans l'esprit d'Anne de Fomentel, c'était la rencontre la plus inattendue dans ma vie, et c'était l'homme de ma vie, ça c'est sûr. Et on ne faisait pas du tout partie de la même famille. on n'avait pas les mêmes lectures, on avait, enfin, en fait, rien nous, voilà. Moi, j'étais partie, j'étais militante, j'étais partie à Saint-Brieuc, où il y avait une lutte ouvrière, et où l'idée, c'était de séquestrer le patron. Et alors, je suis arrivée, le patron et les futurs patrons, il est monté sur un podium, il a parlé, il avait un charme absolument fou. Et je me suis dit, mais tu vas quand même pas, en tant que militante de gauche, tu vas quand même pas tomber amoureuse d'un patron, non? Donc, c'était comme un interdit.
Et si,
ben voilà. C'était comme un interdit. Et puis, bon, on n'a pas séquestré, mais des amis un peu moqueurs, ils ont dit, mais en fait, on ne l'a pas séquestré, mais toi, tu l'as séquestré pour la vie. Enfin, bon. Donc, c'était la plus belle rencontre. Et la plus longue, on peut dire, que dans mon existence. Et c'était donc 80, début 80.
Mais c'est ça qui est intéressant, Marensel, c'est que vous dites ensemble, cet homme et cette femme incarnent l'époque entre sagesse politique et compromission. Et c'est que on se dit 80, 81, 82, c'est la victoire de François Mitterrand et du socialisme en France après les années de droite. Mais c'est aussi ce qui a transformé les espoirs de la gauche en illusions. Et c'est aussi la fin des idéologies, cette décennie des années 80. Et donc, est-ce que vous diriez que c'est finalement cette rencontre-là, entre une droite qui est prête à aller vers un centre-gauche et une gauche qui est prête à aller vers le centre-droit, ou presque. Enfin, vous êtes retrouvés au centre, quoi.
Oui, absolument. C'est ça ce qui était, enfin c'est comme si on était calqué sur l'époque, hein, parce qu'elle était un prototype en fait de patron. Quand j'ai rencontré Georges, c'était une caricature de patron presque, non, avec tout ce que ça implique, voiture de fonction, Mercedes, chauffeur, etc. Et un très très bel un hôtel particulier avec beaucoup de goût arrangé, donc il aimait les antiquités. Et moi j'étais un prototype de la gauche extrême, enfin la gauche engagée. Mais j'avais déjà écrit mon premier livre. Et là aussi, comme pour Glucksmann, pour Mallarmé, il avait lu mon livre et donc il me voyait pas seulement comme ça, hein, comme une fanatique d'extrême gauche. Il avait lu le livre, et bien lu, et il a été très, très touché par la lecture. Et c'est ça ce qui a fait lien, malgré les différences. Et c'est vrai que sur le plan politique, c'est le moment où, enfin, un peu plus tard, quelques trois années ou quatre années plus tard, il y avait Vive l'entreprise, non, le credo.
Vive la crise.
Vive la crise.
C'est même une émission,
oui,
de télévision animée par.
Par Montand, Yves Montand.
Par Yves Montand.
Hein, c'est ça.
Les anciens Mao deviennent gauche caviar.
Et s'inscrivent dans des conseils d'administration, parfois. Enfin, il y avait une attractivité de la droite pour la gauche et une attractivité de la gauche pour... Enfin, bon, voilà. Dans les deux
et donc,
sens.
Marraine et Georges, vous incarniez ça,
voilà,
tous les deux. Il y a, Marensel, un homme et un livre qui occupent peut-être une place à part dans votre vie. Cet homme, c'est Yann Andrea, et ce livre, c'est l'histoire. C'est un livre qui a été écrit en 2002, mais que vous n'avez publié qu'en 2016. Yann Andrea, avec qui vous avez eu une histoire. Alors c'est assez intéressant parce que c'est en ouvrant votre maison que cette histoire a commencé avec lui. Yann Andrea, je le rappelle, on l'a connu comme le compagnon, le dernier compagnon de Marguerite Duras. Ils avaient, à la fin de sa vie, il a été la muse de l'écrivaine. Ils avaient plus de 30 ans d'écart, mais la relation a été extrêmement forte. Il a été presque le traducteur de sa pensée, avec La maladie de la mort notamment, ce livre dans lequel textuel et sexuel tenaient ensemble. Et vous l'avez rencontré à partir de 1999, de février 1999. Yann Andrea est venu s'installer chaque matin dans votre salon, à partir de 9h du matin, et vous aviez toujours le même rituel, lui avait toujours le même rituel, il défaisait ses lacets, il ôtait ses chaussures, et il racontait au dictaphone la vie qu'il avait eue. Ça a donné un livre, parce que vous aviez envie de le faire écrire, Là, vous étiez éditrice. C'est comme ça que votre histoire a commencé. Vous avez fait accoucher d'un livre.
Oui.
Cet homme, ça a donné un livre, cet amour-là.
Oui.
Comment cet amour-là s'est transformé en l'histoire, votre livre avec lui?
Mais j'ai envie de reprendre l'expression que j'ai eue là pour l'influence d'Hélène Cixous dans ma vie. Une folle envie de donner naissance, non? Et Yann, quand je l'ai rencontré, il était au plus bas dans sa dépression après la mort de Marguerite Duras. Et je l'ai rencontré, il pouvait parler que d'elle, et enfin, il était vraiment suicidaire. Et je me suis dit, peut-être l'écriture pourrait le sauver. Et comme je suis agent littéraire, enfin moi éditrice, c'est à moi de le convaincre qu'il peut être sauvé, qu'il n'est pas obligé de se suicider. Et comme il était très joliment coquet, en fait, enfin, il avait quelque chose comme ça d'une innocence et d'innocence et délicatesse, mais un peu de coquetterie aussi. Je me suis dit, il faut que je lui propose quelque chose qui n'est pas... Enfin, vous allez vous mettre à une table de travail. Non. J'ai dit, mais écoutez, on peut commencer comme ça. Vous venez chez moi, vous vous installez. Exactement ce qu'on fait là, avec vous, ce matin. Et vous allez me parler de vous. Il aurait pu faire avant nous. Hein. Bon. Parce que c'est vrai que la conversation, ça, on met à nu un peu quelque chose, non? Bon. Donc lui, ce qu'il a mis à nu, c'est cet enchantement irremplaçable qu'était la vie avec et douloureux avec Marguerite Duras. Mais il commençait à trouver les mots de plus en plus et à raconter des détails. Et après, ça, bon, je l'ai fait décrypter tout ça. Il est parti avec, et à partir de l'enregistrement, il s'est mis à écrire. Et en effet, il écrivait beaucoup la nuit, quand il n'était pas complètement bourré. Bon. Parce qu'on a retrouvé plusieurs fois dans le caniveau, là, devant le floor. Mais il me glissait, comme ça, c'est 2, 3, 4 pages qu'il avait écrit pendant la nuit, glissé sous le paillasson. Je les lisais, je l'encourageais. Et c'est comme ça que cet amour-là est né.
À tout point de vue, c'est comme ça que cet amour-là est né.
Oui,
c'est le titre aussi, du oui. livre, mais aussi l'amour que vous avez progressivement, Marenzel, éprouvé pour lui, et réciproquement d'ailleurs. C'est-à-dire c'est aussi comme ça que votre amour entre Yann Andrea et vous est né, que cette relation d'éditrice à écrivain s'est progressivement transformée. Et là, on parlait de mélange au début de cet épisode. Là, on est vraiment dans un mélange complet de la relation de l'éditrice que vous étiez à l'écrivain, puis ensuite de la femme et de l'homme, c'est-à-dire cette espèce de drôle d'amitié professionnelle qui s'est transformée en amour. Et puis ça a donné un livre que vous avez écrit, l'histoire, donc, écrit avec lui. Mais vous avez attendu qu'il soit mort, que votre mari, Georges, soit mort pour le publier en 2016. Et ce livre s'est appelé « L'Histoire » chez Pauvert.
Oui.
Tout ça, c'est une drôle d'aventure, quand même.
Mais c'est un peu ce qu'on disait. L'écriture, c'est aussi un acte d'amour, non? Et par exemple, je sais aussi... Enfin, moi, donc, il y avait cette grande différence d'âge, non?
Entre vous et lui,
c'était 15 ans, enfin c'était pas beaucoup.
C'était pas une très grande différence d'âge,
avec Marguerite Duras. Mais quand on voit quelqu'un parler avec tant de subtilité de l'amour, mais vous êtes déjà séduit, non? C'est-à-dire, vous vous dites, lui c'est quelqu'un qui sait ce que c'est l'amour, donc pourquoi pas pour toi aussi? Bon. Hein, c'est-à-dire, on est vraiment dans la subtilité de la rencontre et après, c'est vrai qu'il avait écrit donc tous les soirs au Bedford des petits mots qui
mettaient. Le Bedford, c'est quoi le Bedford?
Bedford, c'est rue Princesse, c'est un bar pour des rugbyman qui se saoulent la gueule et lui avec. Et dans ce bar, il avait un petit carnet et il m'écrivait des petits mots. Et j'avais gardé tout ça et j'ai écrit de mon côté. C'est ma fille qui a lu aussi, qui était fascinée par lui aussi, par son écriture, donc de cet amour-là. Et j'ai attendu, et Yann s'est laissé mourir dans son petit studio rue Saint-Benoît. Et il avait tout gardé dans un tiroir et je l'ai retrouvé. Et je l'ai publié plus tard, en effet, parce que je voulais pas faire du mal à ma famille, c'est ça.
C'est aussi un accident de voiture, hein, Marensel, qui a mis fin à cette histoire. Vous avez failli mourir
ouais.
dans un accident de voiture, vous avez failli être défiguré.
Je le suis.
Et vous me l'apprenez, on ne voit rien. C'est le... En tous les cas, ça a été pour vous le signe qu'il fallait changer de vie, qu'il fallait arrêter ça.
Oui, oui, oui. Ouais. Non, Yann, c'était le maître de l'enchanteur de la mort. Hein. Il mettait une libido dans le mourir ou dans la mort, que ça devenait tellement subtil que vous étiez enchanté par son chant. Voilà. Donc, je ne pouvais pas continuer.
On aurait quand même pu placer cet épisode sous le signe de Jacques Derrida, qu'on a fasciné, mais que vous avez fréquenté aussi,
en
tous les cas intellectuellement. Oui, parce qu'il y a une citation qui est dans votre livre « Tout est là », qui fait le lien entre tout ce que nous avons dit dans cet épisode. On peut terminer par ça, par cette citation.
C'est vrai. Parce qu'il y a, c'est différents types de l'amour, non? On a dit amour-admiration, la maladie de la mort, hein, voilà. Et l'amour-amitié, qui est un fol amour. Et j'adore ce passage d'Derrida. Donc, qui était le compagnon de Hélène Cixous pendant des années et des années. Au fond, je n'ai jamais su ni voulu distinguer entre l'amour et l'amitié. Mais pour pouvoir dire je t'aime à un ami ou une amie et d'amour fou, il faut traverser jusque dans son corps l'immense forêt d'interdits et de discrimination. J'aime y risquer des pas, j'aime aussi m'y perdre, le temps de me perdre.
Merci Marensel. On se retrouve pour l'épisode 4, lire et jouer au poker, on parlera de votre métier d'éditrice.
D'accord.
Allez, à demain.
À demain.
C'était À Voix Nue avec Marensel, réalisation Gaëlle Gilon, prise de son Florent Layani, chargée de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.